J'aimerais qu'on lise premièrement le texte dans Luc au chapitre 6, à partir du verset 27. Mais à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du tort, à celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à tout homme qui te demande et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande pas. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur de même. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin qu'ils reçoivent la pareille. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux, et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera. Car de la même mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré en retour. Le cantique, il était vraiment bien choisi. Hein? Vous avez remarqué les paroles? Non seulement c'est la même thématique, hein, de faire des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour, mais en même temps aussi, c'est construit d'une manière semblable à ce que nous avons dans le passage ici, de répondre de manière différente. Il y a des thèmes opposés. En particulier, je voyais dans la strophe 5, « Fais de nous ceux qui consolent, non ceux qu'il faut consoler. » C'est exactement dans la même structure que le Seigneur présente son enseignement dans ce passage. « Ne cherchez pas à recevoir, donnez plutôt. » Voilà, c'est exactement dans ce même sens. Et franchement, je trouve que le chant est vraiment bien apporté parce qu'il parle de bâtisseurs d'amour et c'est exactement la thématique principale que nous avons dans ce passage. Nous allons prier, premièrement. Seigneur, nous nous en remettons une nouvelle fois à toi parce que nous espérons dépendre de toi en toute occasion, Seigneur, et nous prions que tu puisses vraiment parler à nos cœurs ce soir et affermir notre foi dans les Saintes Écritures. Au nom de Christ, nous prions ainsi. Amen. Dans sa prière, Jean-Jacques dit que ce n'était pas forcément la situation dans laquelle nous nous trouvions actuellement. C'est vrai qu'en lisant le texte, bien, on peut avoir deux manières de l'approcher. On peut avoir la manière qu'on fait qu'enseigner, voilà, c'est des principes, et puis ça reste comme ça, et on s'en retourne chez nous. Ce sont de bons principes, mais parce que la situation ne se prête pas du tout à la nôtre actuellement en Suisse, eh bien, voilà, c'est bien, c'est des bons principes. Ou alors, on essaie de changer un peu le sens normal de l'intention voulue par le Seigneur pour trouver ou essayer de trouver une application tout de suite ou pour la semaine qui vient. Ce sera ni l'une ni l'autre de ces deux approches que je vais utiliser pour ce soir. En fait, ce que je voudrais faire, c'est simplement regarder peut-être avec plus d'attention ce que le Seigneur Jésus enseignait ici, premièrement, à ses apôtres, et voir de quelle façon c'est vrai aussi pour nous encore aujourd'hui, mais avec un fardeau qui est enlevé sur nos épaules, le fardeau de quelle serait l'application pour tout de suite, pour que le texte ait du sens. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une application immédiatement ce soir ou demain ou cette semaine, peu importe, pour que le texte soit vivant et vrai et qu'il ait du sens. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous prépare constamment à toujours davantage à ce qui vient. Je ne sais pas si dans notre génération, si on va vivre la persécution, soit au Canada ou ici en Suisse, je ne sais pas. Il me semble que c'est proche avec toute cette question d'identité sexuelle. Forcément, on va se trouver dans le mauvais camp très bientôt, et si ce n'est pas déjà fait, en bonne partie. Mais ce sera difficile, certainement que ce sera de plus en plus difficile. Alors, je me dis que ce texte-là et les vérités qu'il enseigne sont peut-être pas le reflet de la situation actuelle par rapport à nos ennemis, mais tôt ou tard, il y aura des moments plus difficiles. Et de toute façon, puisque la parole est vivante, elle est conservée dans notre cœur en vue de ce qui est à venir. Ce fardeau m'a été enlevé, je dirais, avec John MacArthur, qui a enseigné il y a, je crois, c'était 2 ans au séminaire, qui disait, vous savez, il faut prêcher toute la parole de Dieu et pas forcer des applications pratiques dans le texte, mais chercher ce que le texte enseigne. Parce que la parole de Dieu qui est en nous, elle trouvera son effet tôt ou tard. Alors, peut-être que le texte de ce soir ne sera pas une application pour demain matin, mais peut-être qu'il le sera dans 2 ans, 3 ans, ou je ne sais. Mais voilà pourquoi c'est important d'enseigner ce que la parole de Dieu enseigne dans son contexte, ne pas essayer de diluer pour forcer une application pratique qui serait hors contexte après tout. Alors, j'aimerais vraiment me pencher sur ce que ce texte-là enseigne, ce que Jésus avait l'intention d'enseigner dans ce passage. Voilà, nous sommes toujours dans le milieu de la 2e année du ministère public du Seigneur Jésus. C'est le même contexte, évidemment, que celui qu'on avait regardé dans la première partie. L'action se déroule en Galilée. C'est là que le Seigneur donne l'ensemble de ses instructions à ses disciples. Il passe beaucoup de temps en Galilée. Dans la section qui précédait, celle que il nous a amenée jusqu'au verset 26 la dernière fois, eh bien, on a vu que le texte présentait les différences fondamentales qui existent entre les vrais disciples et les faux disciples à travers cette série de 4 béatitudes et aussi les 4 malheurs que le Seigneur présentait. Donc, c'était un texte qui parlait de caractéristiques de vrais disciples. Maintenant, ce que je crois que le Seigneur est en train de faire ici, dans ces versets, c'est d'approfondir les caractéristiques des vrais disciples du Seigneur. Il a fait le contraste entre les vrais et les faux, et maintenant, on va plus en profondeur au sujet des vrais disciples du Seigneur. Et ces caractéristiques se résument à un seul mot dans ce passage, l'amour. L'amour qui doit caractériser les disciples. C'est pour ça que j'ai trouvé le chant très approprié. William MacDonald, bien sûr, c'est le livre que nous utilisons à la base pour préparer ces études qui nous amènent dans le texte. Eh bien, William MacDonald parle de l'amour ici comme étant une véritable révolution. C'est une révolution sociale qui se passe ici. Ce que Jésus est en train d'enseigner est révolutionnaire. C'était pas un petit enseignement qui était beau, c'était joli, c'était agréable à écouter. Waouh, quel beau sermon. C'était révolutionnaire. C'était radical. Voilà pourquoi d'ailleurs ces 2 messages qui m'ont été confiés, ça s'appelle l'enseignement radical du Seigneur. Il parle d'amour d'une manière qui était inconcevable même à cette époque. Vous savez que l'amour dans les Écritures, c'est pas a priori une question d'émotion ou de sentiment. Toutefois, les émotions et les sentiments sont pas exclus. On est des humains faits à l'image de Dieu, après tout. Mais quand on parle de l'amour biblique, on parle surtout d'un amour qui est fondé sur la volonté d'une personne, sur l'engagement qu'elle prend, sur les décisions qu'elle prend aussi. Donc, en fin de compte, c'est un amour décisionnel, fondé sur la volonté et l'engagement. Ce type d'amour est efficace parce qu'il est produit par le Saint-Esprit en nous. Donc, vous voyez que parfois, même s'il y a peut-être dans les relations, il n'y a pas forcément le sentiment émotif, affectif qui fait que, comme par exemple, on peut prendre dans nos bras certains frères et sœurs et avec d'autres, la relation passe un peu moins, je dirais. Mais l'amour est toujours le même. L'amour doit toujours être le même. Et heureusement que ce n'est pas fondé sur les émotions et les sentiments. Heureusement, parce que c'est tellement éphémère et puis on est tellement variable dans nos émotions, nos sentiments, ce serait terrible si l'amour qu'on doit apprendre à développer était un amour émotionnel ou sentimental. Mais heureusement que ce n'est pas comme ça. C'est un amour qui doit être fondé sur la volonté, l'engagement, la décision inconditionnelle. À l'image du Seigneur qui a aimé des gens totalement détestables comme nous. Ennemis, impies, pécheurs. Vous voulez tous les synonymes qui montrent à quel point on n'était pas très, très beau et pas très aimable. Et pourtant, il nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous sommes appelés à cultiver, à essayer de développer cet amour en nous. Imaginez, déjà, c'est tout un défi, là, ce qu'on est en train de parler, de développer un tel amour. Même pour des frères et sœurs qui ne sont pas du tout nos ennemis, mais avec lesquels il y a peut-être des petites tensions, des irritations, peut-être des désaccords. C'est déjà difficile d'apprendre ce type d'amour. Imaginez l'enseignement du Seigneur. Imaginez que vous faites partie de ce groupe de disciples qui sont assis là. Aimez vos ennemis, ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Ils vous tapent en pleine face, ben vous tendez l'autre joue. Mais c'est quoi ça, cet enseignement-là? Je m'en vais. Je crois que... Il y en a plusieurs qui ont abandonné le Seigneur hein, suite à un enseignement comme celui-là. Il y en a qui se retiraient parce que non, mais ils étaient incapables d'adhérer à ce... Quoi? C'est quoi ce type d'amour? Quand les hommes méchants, quand les hommes pécheurs, quand les ennemis qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas vraiment dans cette situation-là, mais quand des hommes méchants et pécheurs, ennemis, sont confrontés à une réponse comme celle-là, à un amour incroyable, ils sont déstabilisés. Ils sont ébranlés. Le Seigneur est en train de dire, vous voulez vraiment ébranler vos ennemis, ceux qui vous tapent dessus, aimez-les. OK. C'est moi qui ai déstabilisé, non? C'est comme ça que j'aurais réagi en tant que disciple. Seigneur, ça me déstabilise, moi, ce que tu es en train de dire. Mais je n'ai aucun doute que c'est vrai, parce que c'est le Seigneur qui l'enseigne, et cet amour n'est pas naturel. Je ne crois pas qu'on ait un tel amour en nous. Il y a des gens qui aiment les gens, ça, c'est vrai, plus que d'autres. Mais d'aimer à ce point-là, d'aimer à tout laisser et à se livrer comme ça à nos ennemis en les bénissant. Mais si je ne sais pas, et je ne connais pas cet enseignement. Si un jour un ennemi se lève devant moi et veut me taper dessus parce que je suis chrétien ou me persécute, ben comment je réagirais si je n'ai pas reçu l'enseignement du Seigneur? Voilà pourquoi on enseigne déjà. En fait, c'est un bon moment pour enseigner ces vérités. C'est un excellent moment. On profite des temps de calme pour enseigner des vérités qui seront probablement et certainement très utiles plus tard dans les moments plus difficiles. Ce passage-là que nous avons sous nos yeux, il nous démontre clairement que le véritable disciple du Seigneur, il doit s'élever, mais s'élever vraiment au-dessus des normes et de l'éthique de ce monde dans lequel nous vivons. On doit être au-dessus de la norme. Ce n'est pas de s'élever au-dessus des hommes que je suis en train de parler, mais c'est que par l'amour que nous manifestons, contrairement à la réaction tout à fait naturelle devant la persécution, les ennemis, ceux qui se moquent de nous, etc., ceux qui nous causent des soucis, bien, nous nous élevons de par notre éthique qui est supérieure. C'est la justice qui est au-delà de la justice des hommes. C'est une norme que le monde ne connaît pas. Est-ce que vous connaissez l'expression ici « rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce » On dit ça aussi, hein? Ben, c'est totalement le contraire que le texte enseigne. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. On va lui rendre autre chose. Rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, c'est comme faire ce qu'il nous fait, et puis on en ajoute hein, s'il faut. Mais au contraire, le Seigneur va nous donner un exemple extraordinaire. MacDonald m'a impressionné dans cette partie de ce livre. Vous savez, j'avais exprimé que j'étais plus ou moins en accord avec sa position interprétative sur la première partie de l'enseignement radical. Mais là, par contre, je peux dire que, ouais, ça me rejoint beaucoup. Et il y a une phrase qui m'a frappé, j'ai dû la lire et la relire à quelques fois. Le verbe « frapper » revient souvent, j'essaie de la lire correctement. Il déclare ceci, « Le disciple qui se fait frapper sur la joue et qui tend l'autre joue frappe le cœur de celui qui l'a frappé. C'est pas beau, ça? Bon, je vais le relire parce que je suis pas certain que ça a passé partout, mais... Le disciple qui se fait frapper sur la joue et qui tend l'autre joue frappe le cœur de celui qui l'a frappé. Par son attitude, par ce geste incroyable, inattendu, on tend l'autre joue, pfiouf! Bon, il y a quand même des choses à expliquer par rapport à ce concept de tendre la joue, mais on comprend que le Seigneur est en train de dire de ne pas réagir par vengeance, de ne pas réagir par l'attitude peut-être qui serait naturelle au cœur humain, ça va frapper l'autre dans le cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, c'est beau tout ça, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vraiment des gens qui tapent sur un chrétien, puis parce que le chrétien il réagit bien, ils sont touchés puis ils se convertissent? Et la réponse, c'est oui. C'est plus que juste quelque chose de beau, d'éthiquement extraordinaire, etc. C'est arrivé, ça, très souvent. Dans l'histoire de l'Église, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Blandine? Elle a été martyrisée, comme vous pouvez même pas vous imaginer, pas tellement loin d'ici, à Lyon, dans l'arène des Trois-Gaules. Eh bien, par son attitude à l'intérieur même de l'arène où elle était battue, brûlée, livrée dans un filet à un taureau qui la secouait ici et là, par son attitude d'amour envers ses persécuteurs, il y a des bourreaux qui se sont convertis suite à cette attitude remarquable. Donc, je crois que l'enseignement du Seigneur, c'est pas un enseignement qui est « wow », qui est super beau, mais qui n'est pas vraiment réel. Non, j'y crois vraiment. Je crois que par une attitude totalement contraire à ce qu'on pourrait s'attendre, le Seigneur peut toucher les cœurs des bourreaux. Et plus récemment, alors je dirais quand même il y a quelques années, je ne sais pas exactement, je recevais des nouvelles assez régulières de « Gospel for India », donc l'Évangile pour l'Inde. Et puis là-bas, il y a une très grande persécution. Et puis, il y avait, entre autres, dans une région particulière où il y avait des persécuteurs qui tapaient avec des bâtons de bois puis qui tuaient les chrétiens à coups de bâton. Et puis, on a entendu des requêtes de prière venant de l'Église persécutée là-bas qui nous disaient « Priez pour nous, mais pas pour que les coups cessent, pour que ceux qui nous frappent se convertissent. » Et que nous restions fidèles jusqu'au bout. On ne veut pas que la persécution cesse, c'est pas ce qu'on veut vraiment, parce que c'est plein de conversions partout à cause de ça. Mais on souffre et on vous demande de prier pour nous pour qu'on puisse passer à travers tout cela dans la fidélité, mais qu'il y a des conversions. Et il y a eu des conversions parmi les bourreaux de ces gens, parce qu'ils réagissaient de façon tellement différente par amour. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage-là. Et le passage va mettre beaucoup l'accent sur l'action de donner. Pour être un véritable disciple, MacDonald, il ajoute, « Il ne doit pas s'attendre à être au bout de la chaîne pour recevoir, mais au tout début pour donner. » C'est des pensées quand même profondes quand on y pense, qui pourraient modifier le cours de notre existence, de notre conduite, de la vie de tous les jours. Un vrai disciple ne doit pas s'attendre à être au bout de la chaîne pour recevoir, mais au tout début pour donner. Alors, si on regarde le contexte immédiat, je crois qu'il s'agit surtout d'enseignements qui sont donnés par le Seigneur à ses apôtres. Et les apôtres, dans l'immédiat, avaient besoin d'un tel enseignement parce qu'ils allaient être confrontés à toutes sortes de difficultés. Eux, ils allaient faire face à de véritables ennemis. Eux, ils allaient faire face à des gens qui allaient s'opposer à eux. Je cite MacDonald à nouveau qui dit ceci. Au service du Seigneur, les 12 allaient rencontrer toutes sortes de détresses humaines. Ils allaient voir des malades, des aveugles, des sourds, des personnes âgées, des gens égarés, des personnes possédées, des solitaires, des pauvres, des sans-abri. Et il y aura des moments où les disciples seront tentés de succomber à l'impatience. Ils seront peut-être même exténués sur le plan physique. Ils seront épuisés sur le plan émotionnel. Ils auront peut-être même envie de se mettre en colère. Voilà pourquoi le Seigneur, qui est en train de les préparer à aller devant dans la mission, il leur donne un tel enseignement. Et franchement, je crois que cet enseignement serait exactement le même pour nous. C'est pas compliqué l'application. On n'a qu'à écouter ce que le texte dit, le garder dans nos cœurs pour être prêt à réagir de cette façon quand les temps seront plus difficiles. Parfois, il m'arrive quand je prêche d'avoir un titre, une structure, trois points, etc. Et ça s'y prête bien. Mais ici, je trouvais que ce qui allait mieux, c'est de passer à travers l'enseignement radical du Seigneur, verset par verset, parfois deux versets ensemble. Et donc, j'aimerais reprendre de cette manière le texte et regarder cet enseignement qui prépare non seulement les disciples de l'époque, mais encore nous aujourd'hui, à réagir de façon différente en face des persécutions et des ennemis et des difficultés qui peuvent se développer devant nous parce que nous sommes chrétiens d'une manière particulière. Verset 27. « Mais à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Lorsque le Seigneur dit « Mais à vous qui écoutez », il ne s'adresse pas simplement à ceux qui entendent, mais il s'adresse à ceux qui écoutent. Et ceux qui écoutent sont ceux qui portent attention, qui réfléchissent à ce qui est dit. Alors, pour eux, c'était audible. Pour nous, c'est maintenant par la lecture, mais nous entendons la même voix, celle du Seigneur qui nous donne le même enseignement. Et qu'est-il cet enseignement? Et je prie qu'on puisse écouter ce soir cet enseignement du Seigneur. Écouter, c'est comme un disciple, en vue d'obéir. C'est tout le contraire de seulement entendre. Il nous dit « aimer » essentiellement. Un verbe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui parle d'engagement, de décision, de volonté. Non seulement d'aimer, qui est déjà un standard si élevé qu'on pourrait arrêter le passage et dire « repartez chez vous, là, puis essayez de mettre ça en pratique le restant de votre vie, ce sera suffisant. » Ce serait vraiment suffisant. Mais faites du bien aussi. Pourquoi faites du bien? Ben, c'est la démonstration concrète de l'amour. Tu aimes, mais comment? De quelle manière? Tu fais du bien. Et dans un tel contexte de faire du bien, il n'y a rien de naturel à l'être humain dans ce passage. C'est la meilleure façon de confondre l'ennemi, c'est de lui faire du bien. Moi, je crois que l'apôtre Paul enseigne exactement les mêmes vérités que Jésus enseigne ici, mais aux croyants de l'Église de Rome. Et j'aimerais qu'on prenne une petite pause pour aller dans Romains chapitre 12. On prend une pause de Luc et puis on revient tout de suite après, mais seulement un petit saut là-bas pour voir un passage parallèle qui mérite d'être lu ce soir, dans ce contexte. Romains, chapitre 12. J'ai toujours la difficulté de savoir où débuter la lecture. Verset 17 à peu près. Ça va comme référence, ça? Romains 12, 17 à peu près. « Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Vous avez tous ça? OK, c'est surtout la suite. « Ne rendant plutôt à personne mal pour mal, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes, ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Donc, laisser agir la colère, ça ne veut pas dire, allez, vas-y, explose. Ça veut dire, laisse-la au Seigneur. C'est lui en son temps qui rétribuera. C'est pour ça qu'il s'appuie sur une citation par la suite. Si donc, regardez le verset 20. « Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. » J'ai déjà entendu quelqu'un me dire que ce verset-là disait ceci. Voici son interprétation. Il disait, tu vois, ça vaut le coup de ne pas se venger maintenant, mais en faisant le bien, on va leur concocter tout un jugement sur la tête. Des charbons ardents sur leur tête, parce qu'ils nous font du mal maintenant, on répond par le bien, et tu verras en son temps, paf, ils seront frappés. Premièrement, c'est de ne pas comprendre du tout le sens du passage, ni la métaphore dans son contexte à l'époque. L'expression « mettre des charbons ardents au-dessus de la tête de quelqu'un » est une expression qui signifie l'amener à reconnaître la honte de ce qu'il fait. En fait, c'est de l'amener à éprouver de la honte. C'est d'amener par ta réaction tellement pas normale, tellement pas naturelle, c'est tellement le contraire qu'il est confus. Donc, l'expression « accumule des charbons au-dessus de sa tête », c'est de l'amener à la repentance. C'est par notre attitude d'amener ceux qui nous persécutent à la honte et à la repentance. Voilà pourquoi elle termine en disant « Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Revenons dans Luc chapitre 6, verset 28. « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du tort. » Bénissez, ça signifie littéralement, dans le sens étymologique, là, de dire du bien. Et ça inclut aussi l'idée de faire du bien. Alors, dis du bien à ceux qui te font du mal. Fais du bien à ceux qui disent du mal de toi et qui te font du mal. Ce n'est pas normal, humain, de réagir comme ça de façon naturelle. Mais l'amour de Dieu peut nous amener à ce niveau. Priez pour eux. Vous voyez ce que le Seigneur il dit? Priez pour ceux qui vous font du tort. Priez pour quoi? Pour qu'ils arrêtent. C'est une bonne question. Le Seigneur ne précise pas exactement. Priez pour ceux qui vous font du tort. Je prie pour quoi? Pour qu'ils arrêtent ou pour qu'ils soient sauvés en face d'une telle réponse d'amour? Moi, je crois que c'est la deuxième option. Bien sûr que ce serait naturel, normal. On ne serait pas des extraterrestres là, si on disait au Seigneur, « Seigneur, fais que mes ennemis arrêtent de me persécuter. » On a tout à fait le droit et le privilège de demander ça à notre Père. Mais on doit aussi lui demander de nous garder fidèles dans le cas où il permettrait que ça continue et que ces gens-là se convertissent. « Seigneur, je te prie pour eux. Ils me font du tort. Je te prie pour qu'ils se convertissent. » c'est vrai que s'ils se convertissent, les difficultés vont probablement cesser, hein, n'est-ce pas? Il est converti maintenant. Versets 29 et 30. « À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à tout homme qui te demande, et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande pas. » Là, c'est vraiment pas naturel ce qu'on est en train de lire là. À nouveau. Avez-vous déjà eu des points d'interrogation dans votre cœur, dans vos pensées par rapport au concept de tendre l'autre joue? Ça doit s'arrêter où, ça? Est-ce que ça signifie finalement que toute personne qui veut nous taper dessus, on doit le laisser nous taper et même l'encourager quelque part? Paf! Ah, attends, j'ai un autre joue. Paf! Ah, peut-être tu veux te taper ailleurs, quoi? Mais j'ai entendu des discussions entre frères et sœurs qui se disaient, mais comment on applique ça? Est-ce qu'on doit faire ça littéralement? Je ne crois pas avoir toute l'autorité nécessaire pour dire ce que ça signifie. C'est pas évident en réalité, mais j'aime bien m'appuyer sur une citation de John MacArthur ici qui est très intéressante. Écoutez bien, puis vous pouvez réfléchir à voir, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce concept? Je trouve que ça a beaucoup de sens ce qu'il dit. Voici ce qu'il écrit, je cite, « Le commandement, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre, ce commandement n'exclut pas les mécanismes d'autodéfense que Dieu a fournis pour qu'on se protège, pour qu'on se protège. Jésus n'interdit pas à ses adeptes, ou à ses disciples, je préférais, de se défendre s'ils sont dangereusement attaqués. D'ailleurs, dans Luc 22, 36, il dit aux apôtres de s'acheter une épée s'ils n'en ont pas pour se protéger. » Les gouvernements eux-mêmes qui sont en place, ils sont là pour nous protéger avec le glaive et pour empêcher l'anarchie et les exactions. Puis si vous lisez Romains 13, c'est exactement ce que ça enseigne, versets 3 et 4. Quand les disciples étaient expulsés des synagogues, comme Jésus d'ailleurs les avait prévenus dans Jean 16, verset 2, ils étaient souvent battus. Paul, il dit qu'il a été battu 5 fois dans 2 Corinthiens 11, 24. Ils étaient giflés, ils étaient déshonorés, ils étaient insultés publiquement, ils étaient incapables de se défendre. Mais MacArthur ajoute ceci, ils n'avaient pas à répliquer. Dans cette situation, ils n'avaient pas à répliquer. Ils devaient accepter le mauvais traitement et continuer d'aimer leurs oppresseurs. Jésus a donné l'exemple, écoutez bien ceci, Jésus a donné l'exemple de la réponse adaptée à l'humiliation injuste au cours de son procès par le souverain sacrificateur. Vous savez que l'un des huissiers a frappé le Seigneur Jésus en plein visage, probablement du revers de la main, lui a donc frappé la tête sur une joue. Et qu'est-ce qui est dit du Seigneur? Il n'a pas tourné la tête pour dire « frappe-moi sur l'autre joue ». Mais le Seigneur Jésus ne déversa pas sa colère et son désir de vengeance à la suite de ce mauvais traitement. Calmement, il fit ressortir l'injustice de l'acte. C'était vraiment injuste de faire ça. Mais dans ce passage-ci, il n'a pas littéralement tendu l'autre joue pour qu'on le frappe. Tendre l'autre joue, c'est comme Jésus l'a fait, accepter l'hostilité ou le mauvais traitement sans haine ni riposte, mais montrer de l'amour en retour. Et je suis convaincu de cette compréhension de l'expression. Je crois que c'est au sens figuré qu'on doit réaliser que tendre l'autre joue, ce n'est pas nécessairement aller frapper, j'aime ça, il n'y a personne qui fait ça. On a des mécanismes d'autodéfense qui sont normaux, que Dieu a mis dans nous, l'instinct de survie, comme on dit, qui est normal. Mais quand on est persécuté et on est frappé à cause de la foi, parce que nous sommes chrétiens, nous ne devons pas chercher à nous venger. Nous devons laisser cela entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que les disciples ont fait quand ils ont été persécutés dans les synagogues. C'est ce que Paul a fait quand il a été battu. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait quand on l'a frappé au visage. Il n'a pas invité à ce qu'on le tape encore. Il a même démontré et dit que c'était injuste. Mais il n'a pas cherché à se venger. C'est la même chose avec l'exemple du manteau qui suit. Soit le manteau, la tunique, les biens personnels. Le Seigneur enseigne ce même principe, ne pas chercher à se venger de celui qui abuse de nous. Ne pas chercher à rendre aux autres la monnaie de leur pièce. C'est ça l'enseignement du passage. J'en suis convaincu. Verset 31. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur de même. C'est ce que nous appelons souvent la règle d'or. La règle d'or de la conduite. Comment on doit se conduire envers les hommes? Bien, on doit se conduire d'une façon comme celle qui est mentionnée là, d'une manière positive. Faire aux autres. La façon de le dire ici met l'accent sur les autres. Faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. Il y a une autre manière dont cette règle, elle est exprimée. C'est dans un sens plutôt négatif et c'est très populaire dans plusieurs cultures du monde entier. Il y a plusieurs cultures qui ont la règle d'or inversée. Dans un sens négatif, dans le sens « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent ». Mais l'enseignement du Seigneur, c'est positif. Fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent et ça met l'accent sur les autres. Tandis que d'un point de vue négatif, ça met l'accent sur soi. Parce que tu ne veux pas subir de tort. Alors, fais-leur pas, parce que toi, tu ne veux pas subir de tort. Ça met plutôt l'accent sur le « moi ». Je suis d'accord avec MacDonald sur cette idée. C'est une règle d'or. Fais aux autres. Autrement dit, attends pas, prends les devants. Montre-leur déjà de l'amour. Montre-leur que tu es déjà un disciple du Seigneur Jésus-Christ par un comportement, un tempérament, un caractère et des œuvres qui le glorifient. C'est ça faire aux autres. Prends les devants. Tandis que d'un point de vue négatif, c'est plus une réaction. Versets 32 à 34. « Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs. » Vous voyez qu'il y a trois versets qui disent exactement la même vérité. La même vérité. Aimer, faire du bien, prêter, sans espérer de retour. Waouh, c'est assez impressionnant les deux lignes directrices que le Seigneur est en train de prendre dans son enseignement. Ne pas donner en retour tout le mal qu'ils nous font, mais nous faire du bien sans espérer qu'ils nous donnent en retour le bien. Vous voyez ça maintenant? C'est impressionnant. Les deux façons de faire sont totalement non naturelles au cœur humain. Alors, tu ne leur redonnes pas le mal qu'ils donnent, et le bien que tu leur donnes, tu n'espères pas en retour. C'est fantastique. Ça, c'est le pédagogue par excellence qui enseigne de cette façon, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, un tel enseignement, c'est radical, c'est différent, et c'est une action extraordinaire de faire comme ça. Mais, autrement, il n'y a rien d'extraordinaire parce que les pécheurs font exactement la même chose. Donc, il n'y a rien de particulier à faire exactement comme les pécheurs font. Qu'est-ce qui sera extraordinaire? Qu'est-ce qui sera hors norme? C'est de faire le contraire, c'est de ne pas agir comme eux. C'est de ne pas rendre le mal pour le mal et c'est pas d'espérer le bien en retour du bien que tu fais. Et ça, c'est très radical et extraordinaire. Autrement, ben, c'est les pécheurs aussi. Ils peuvent faire exactement la même chose. Versets 35 et 36. « Mais aimez vos ennemis et faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. » Quel passage! De quelle récompense il parle le Seigneur quand il dit « Votre récompense sera grande parce qu'on aime les ennemis, on fait du bien et on prête sans rien espérer. » Et en passant, cette phrase-là résume tout ce qu'il vient de dire. Tout ce qu'il vient d'enseigner. Aimer les ennemis, faire du bien, prêter sans rien espérer. Quelle récompense! Est-ce que c'est une récompense qui est à venir dans le royaume des cieux? Moi, j'aimerais ramener cela à un niveau sur la terre. Parce que je crois que c'est le contexte. Moi, je crois que la plus belle récompense qu'un chrétien qui est maltraité, mais qui réagit par amour, peut avoir, c'est de voir celui qui agit mal se convertir devant lui. Imaginez la récompense. Imaginez ce que serait. C'est immense. C'est une récompense qu'on peut voir maintenant. Et je crois que c'est la récompense dont le Seigneur parle. De voir l'impact qu'il y aura dans la vie. Peut-être que ce ne sera pas immédiat. Mais il y a une récompense qui est celle de voir les gens changer, transformer. Voilà pourquoi je crois que c'est peut-être cette conversion causée par la confusion de voir, mais comment ça se fait qu'il réagit de cette façon-là? Et de plus, le Seigneur, il nous dit que cet amour et cette façon d'agir confirment notre identité. Vous serez les fils du Très-Haut. Je me suis posé la question, pourquoi un temps futur? Pourquoi pas, si vous agissez de même, vous êtes les fils du Dieu Très-Haut. Le futur, selon moi, nous pousse à réaliser que c'est vraiment pas naturel qu'on n'agit pas maintenant comme ça, mais que si on agit comme ça à l'avenir, ça démontrera notre identité. C'est peut-être la raison du futur. Je ne suis pas certain. Je vous l'avoue, je ne suis pas certain. Mais je me suis quand même posé cette question et je crois que dans le contexte, le Seigneur dit, ce sera la confirmation à ce moment-là que vous êtes vraiment des fils du Très-Haut. Et là, vous comprenez que c'est inclusif, c'est fils et filles. Bien sûr, c'est enfin, vous serez des enfants de Dieu du Très-Haut. Et puis, pourquoi il utilise Très-Haut et pas Père ici? Parce que Très-Haut met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il est Très-Haut, il est au-dessus de tout. Et donc, en agissant ainsi, vous confirmerez que vous êtes des enfants d'un Dieu souverain qui avait confiance en lui. Alors, ce n'est pas normal ce qui se passe, ce n'est pas normal de réagir comme ça, d'aimer les ennemis, de donner sans espérer de retour. Cette façon de faire, elle n'est pas normale, mais parce que vous le faites, vous confirmez que vous croyez en un Dieu souverain. Vous ne cherchez pas à vous en sortir par vous-même. Mais une autre raison que le Seigneur Jésus donne ici pour agir de cette façon envers les pécheurs, c'est que Dieu aussi le fait. C'est ce que Dieu fait. Remarquez ce que le Seigneur dit, il y a un quart. Relisons 35. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande, peut-être de voir la conversion de ceux qui nous tapent dessus. Vous confirmerez votre identité, car, il y a un car ici, il explique donne une raison supplémentaire à cette attitude, à cette façon de faire, parce que c'est ce que Dieu fait. Il est bon envers qui dans le passage? Les ingrats, les méchants. Il est bon envers ceux qui vous font du tort présentement.
Quoi?
Oui, oui. Dieu est bon envers eux. Pas seulement dans le fait qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, mais Dieu est bon parce que c'est envers des hommes pécheurs que Dieu manifeste sa miséricorde. Il est bon envers eux et vous devez être bon aussi. En conséquence, vous devez démontrer le même caractère que votre Père. Il est miséricordieux, bien soyez miséricordieux. Tendez-leur une corde, ils sont dans la misère, miséricordieux. Ayez de la compassion, ayez pitié. Parce que votre Père, c'est comme ça qu'il est. Puis, franchement, ça nous rappelle que, ouais, ben nous aussi, on était comme ça. On était parmi les ingrats, les méchants, les pécheurs, les impies, que Paul appelle dans Romains. Et Dieu nous a fait miséricorde. Alors, soyez donc, versets 36, 37 et 38, soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Et là, vous avez une série de « faites ceci et il n'y aura pas ça », etc. Donc, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamné. Acquittez, vous serez acquitté. Donnez, il vous sera donné. Et avant de regarder la dernière phrase, ce sont cinq causes à effet que le Seigneur mentionne ici pour un véritable disciple du Seigneur qui agit de façon totalement différente de ce que le monde fait, qui ne cherche pas à se venger, mais qui témoigne la miséricorde, l'amour, la bonté du Seigneur à ces gens qui ne méritent pas, pas plus qu'on le méritait non plus. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ça parle d'être impitoyable. Ne soyez pas comme ça. Puis les gens ne seront pas comme ça. En bout de ligne, envers vous, de toute façon, même s'ils vous persécutent, vous ne serez pas sous cette même condamnation, ce même jugement. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Ça parle d'être sans retour. Quelqu'un qui condamne ici, c'est quelqu'un qui... Non! Aucun retour, rien à faire, il a condamné, il a laissé tomber la décision, il a tapé avec son marteau sur le tribunal, et puis comme un juge, bang, il n'y a rien à faire, il ne veut pas changer de direction. Le Seigneur, il dit, faites pas ça, et vous ne serez pas condamné. Acquitté, vous serez acquitté, ça parle de pardonner, de laisser aller, pardonner, laisser aller. Donner, il vous sera donné, générosité, il y a des dividendes à cette générosité, pas des dividendes matériels, spirituels, la paix, la joie, le bonheur de voir des gens se convertir. Et à la fin, il utilise cette métaphore qui souligne les conséquences qui sont engendrées par notre attitude en parlant de mesure. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et secouée et qui débordera. Si on ne connaît pas la façon dont on achetait des mesures de grains, par exemple de céréales, de blé, cette métaphore, elle est difficile à comprendre. Mais au marché, on se plaçait à genoux par terre et puis souvent on utilisait le pan de la tunique ou de la robe comme, c'est ce qu'on appelle le sein, le kolpos en grec. Et c'était une petite poche qu'on formait pour acheter des mesures de grains, de blé, de différentes matières sèches. Et puis, on mettait, et puis on branlait comme ça, on secouait pour que les grains ils se collent de plus en plus les uns aux autres et puis qu'ils diminuent l'espace jusqu'à ce qu'il y ait une mesure fixe. Parfois, on n'utilisait pas seulement le vêtement, on utilisait aussi un cornet ou quelque chose du genre. Mais on secouait, on serrait pour être certain qu'on ait la bonne mesure quand on achetait une mesure de grains ou de blé, ou de quoi que ce soit d'autre dans les matières sèches. Et le Seigneur dit, c'est comme s'il nous donnait la récompense. Avec l'attitude totalement différente, c'est comme si le Seigneur nous disait, vous allez recevoir beaucoup plus que vous pouvez imaginer. Non seulement, comme au marché, vous aurez la bonne mesure, mais ça va déborder. C'est encore plus que ça. Ça débordera. Car de la même mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré en retour. Quelle image de conséquences qui sont engendrées par l'attitude. Mais c'est vrai aussi d'un point de vue négatif, hein, les conséquences peuvent être terribles si on réagit mal, si on agit mal. Oui. En lisant ce texte-là, je me disais, OK, cette semaine, comment je vais appliquer ça? Peut-être que ce ne sera pas cette semaine. Peut-être que ce sera dans quelques années. Peut-être que ce sera dans des moments plus difficiles. Quoi qu'il en soit, parce que je comprends ce texte, parce que je reçois les paroles du Seigneur, parce que je crois à cet enseignement qui est donné ici, c'est gardé dans mon cœur. Et j'espère que le jour où je serai confronté à une réaction, enfin à une persécution, j'aurai la bonne réaction, celle qui est là, par l'amour, à ne pas chercher à me venger moi-même, à ne pas chercher à me justifier moi-même, mais à confondre ceux qui nous frappent, ceux qui nous maltraitent. C'est enseigné partout dans le Nouveau Testament, ce que le Seigneur Jésus enseigne ici. Un amour qui est fondé sur l'engagement, la décision, la volonté d'obéir au Seigneur et de manifester que nous sommes de vrais disciples. Prions. Seigneur, merci parce que cet enseignement est complètement au-delà de toute réaction humaine normale, je dirais, mais naturelle. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu et que l'Esprit est en nous, que tu as versé cet amour tout à fait unique et particulier en nous, nous en sommes capables par la force que tu donnes. Seigneur, peut-être qu'on a mal réagi déjà dans le passé, probablement même à une insulte, à une moquerie, à une légère affliction peut-être. Seigneur, nous voulons et nous prions que par cet enseignement que nous avons entendu, nous ayons la bonne réaction devant ceux qui nous causent du souci, qui nous persécutent. Aide-nous à réagir de la bonne façon. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen.